Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, au nom de la BPI, je voulais vous remercier de votre présence. Pour ce deuxième débat en collaboration avec le magazine Books, le magazine de l'actualité du monde par les livres, c'est une collaboration, comme je vous le rappelais la première fois, entre la Bibliothèque publique d'information et le magazine Books. Et cette fois-ci, pour ce rendez-vous, un thème qui nous concerne tous, vivre 120 ans, avec un point d'interrogation pour le débat. Je remercie donc Olivier Postel-Vinet qui a accepté de modérer ce débat et qui a contribué à la conception de cette rencontre avec la BPI. Et donc, je vous présente des intervenants en excusant Antoine Danchin qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous, mais en remerciant donc nos invités, Jean-Marie Robin, qui est directeur du laboratoire démographique et santé de l'INSERM, Hervé Lebras, qui est démographe et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, et puis Pierre-Henri Gouillon, qui est biologiste. Voilà, je vais laisser Olivier Postel-Vinet les présenter plus en détail. Merci à vous.
Voilà, étant entendu que Antoine Danchin, qui est généticien, qui a longtemps dirigé le laboratoire de génétique bactérienne à l'Institut Pasteur, qui vous prie de l'excuser, m'a envoyé un petit texte. Il a travaillé, en fait, il m'a envoyé un petit texte que je ne vais pas vous lire parce que je l'ai jugé un petit peu austère, ou disons, peut-être difficile à comprendre comme ça en premier abord, mais dont j'évoquerai les quelques idées principales après que chacun de mes invités, de nos invités ici, s'est exprimé. Je remercie évidemment la BPI de nous offrir l'hospitalité et l'occasion d'évoquer un tout petit peu aussi le magazine Books que je dirige et sur lequel vous avez au mur une représentation de la plaquette qui avait été insérée dans les documents de la BPI avec une couverture tout à fait provisoire. C'était pas mal d'ailleurs. Et la couverture ayant changé entre-temps. Vous allez revoir la couverture actuellement en vente, projetée un peu plus tard. Il y a beaucoup de sujets, en fait, dans la question vivre 120 ans. Vivre 120 ans, c'est un titre d'accroche. C'est vrai que Jeanne Calment, vous vous en souvenez sans doute, qui reste la record woman absolue de longévité mondiale, avait atteint 122 ans et quelques. D'ailleurs, Jean-Louis Robin, qui est à mes côtés, a participé très activement à un travail d'un genre très particulier qui consistait à valider l'âge de Jeanne Calment, parce que l'un des problèmes que nous avons face aux personnes qui elles-mêmes ou dont l'entourage affirme qu'elles sont très âgées, c'est que l'affirmation est souvent sujette à caution. Donc il y a énormément de problèmes en fait qu'on va évoquer. Je rassemble autour de moi aujourd'hui en fait deux démographes et demi, allais-je dire, parce que Pierre-Henri Gouillon, qui est généticien, et l'une de ses spécialités, c'est la génétique des populations. C'est une autre façon d'être démographe. L'ombre d'Antoine Danchin, qui est généticien, va planer aussi un petit peu sur le débat, parce qu'il aura des choses, je pense, un peu différentes à dire par mon intermédiaire que ce que Pierre-Henri Gouillon va dire. Est-ce que j'ai besoin de présenter davantage chacun des intervenants? Je ne suis pas sûr, mais quand même peut-être. Je vais commencer par donner la parole à Hervé Lebras, qui est l'un des papes de la démographie française, professeur hautes études, et qui a écrit de très nombreux ouvrages savants et de vulgarisation sur la démographie, et aussi quelques ouvrages polémiques, parce qu'il est entré dans des polémiques assez vives sur certains sujets. Donc l'autre démographe en titre, c'est Jean-Marie Robin, pardon, à qui je laisserai le soin d'intervenir en troisième. Et qui, lui, à Montpellier, étudie l'évolution récente de la longévité et qui va donc vous parler de vous donner des chiffres et vous montrer quelques-uns des problèmes statistiques qui se posent quand on analyse l'évolution récente de la longévité et avec les surprises qui ont marqué le monde de la démographie à cet égard. Et Pierre-Henri Gouillon, qui parlera donc en deuxième, s'il veut bien l'accepter, je disais un généticien des populations, mais à l'origine, c'est un botaniste, sauf erreur, en tout cas
agronome.
Bon, il est pas mal écrit sur les plantes. C'est quand même votre spécialité, l'une de vos spécialités. Et il a publié récemment un bouquin sur l'histoire de la sexualité, les origines de la sexualité, qui est un livre collectif. Et il avait publié auparavant au moins deux livres, dont l'un qui a été l'occasion de nous rencontrer à l'époque, qui s'appelait « Les avatars du gène ». Jean-Marie Robin a lui aussi co-publié plusieurs livres, y compris avec des auteurs américains et allemands. Et donc je laisse pour commencer la parole à Hervé Lebras, mais tout de même pour marquer quelques-unes des idées qui vont irradier cette soirée. J'ai listé sept questions. Un, pourquoi vieillit-on? Question à laquelle il n'est pas si simple de répondre. Deux, il n'y a pas vraiment un ordre fondamental dans mes questions, mais tout de même. Pourquoi la longévité moyenne s'est-elle tellement accrue depuis deux siècles? Ça, je pense que Jean-Marie Robin pourra donner une partie de la réponse à la question, Pierre Gouillon aussi. La longévité moyenne va-t-elle continuer à s'accroître? Est-il souhaitable qu'elle continue beaucoup à s'accroître? Ça, ce n'est pas le cœur des exposés qui auront lieu, mais je pense que ça fait partie des questions qu'on pourra se poser. Une question plus technique, mais intéressante, la durée maximale de la vie peut-elle être allongée? Existe-t-il une durée maximale de la vie? Peut-elle être allongée? Jeanne Calment est-il une limite infranchissable ou quasi infranchissable? Que valent les travaux consacrés aux moyens d'accroître encore la longévité? Que valent les travaux consacrés à l'allongement de la durée maximale de la vie? Ça fait aussi partie des questions qui pourraient être posées dans le débat. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus pour les poser à l'intervenant de votre choix. Que valent les recettes prodiguées par quantité de mages, de sages et de spécialistes pour vivre plus longtemps? Alors là, ça me donne une transition pour annoncer ce que va dire Hervé Lebras, qui va nous parler de l'histoire des idées sur la longévité et la manière dont ce sujet a été appréhendé par des générations successives de scientifiques.
Merci Olivier. Oui, je vais essayer brièvement de montrer que il y a une opposition historique fondamentale entre mortalité et longévité, que on a d'abord pendant très longtemps pensé en termes de longévité, et vous verrez de quoi il s'agit, puis on a changé, on a pensé en termes de mortalité, et je pense qu'actuellement on revient à une pensée en termes de longévité, donc de grand âge. Alors, quand je dis on a d'abord pensé, ben, il suffit d'ouvrir la Bible, de lire la Genèse, et vous vous souvenez qu'il y a tous ces prophètes qui vivent très longtemps, Mathusalem, qui je crois atteint 969 ans. Et puis au chapitre 6 de la Genèse, Dieu se met en colère et il dit « Que mon esprit ne soit pas indéfiniment humilié dans l'homme, puisqu'il est chair, C-H-A-I-R, sa vie ne sera plus que de 120 ans. » Quand même, le chiffre est lâché. Et ce chiffre va nous tenir pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Dieu avait relativement bien visé. Vous avez entendu que Jeanne Calment, c'était 122 ans. Alors, pourquoi ce passage figure-t-il dans la Bible? Là, je laisserai à l'exégèse, mais ça montre que l'intérêt en matière de ce que nous appelons aujourd'hui mortalité, à ces époques-là, était en fait un intérêt en matière de longévité, c'est-à-dire l'idée que chaque espèce, et pas simplement l'homme, avait une certaine durée de vie, avait un terme, et que, sauf accident, elle devait chercher à atteindre ce terme. La question est discutée pourrait dire, de Aristote à Buffon, même Buffon qui pourtant vient un peu après l'arrivée des idées sur la mortalité, cherche encore, dans son histoire naturelle, à expliquer les différences de longévité, notamment les comparant aux différences de gestation. Il a une très belle idée à propos, tout à fait aristotélicienne, à propos de la grande durée de vie de Mathusalem et des premiers prophètes. Il dit, à l'époque, l'univers étant un peu plus liquide, on vivait un peu plus longtemps. C'est une très belle idée parce que c'est la théorie ancienne du vieillissement. On vieillit parce qu'on se dessèche. Et donc l'humidité est un remède ou un rempart contre le vieillissement. Et d'ailleurs, quand vous regardez à cette époque-là, dans la grande encyclopédie, si vous regardez quels articles traitent de la durée de la vie, ce n'est pas l'article mortalité, mais l'article longévité, où vous trouvez les questions d'espérance de vie, de vaccination, déjà, enfin d'inoculation. L'article mortalité est très curieux, il contient simplement une petite description d'une maladie des vaches polonaises, assez bizarre d'ailleurs, parce qu'en fait, mortalité signifiait primitivement épidémie. C'est ce qu'on appelait au Moyen-Âge une grande mortalité, c'est-à-dire une famine, une peste. Et c'est progressivement seulement que, au XVIIe siècle, on va glisser d'un côté à l'autre. C'est-à-dire, on va non plus s'intéresser à l'âge ultime, à la longévité, mais commencer à s'intéresser à la manière dont on survit à chaque âge, au risque qu'on court de décéder à chaque âge. Auparavant, l'idée, jusqu'à l'âge classique, particulièrement à la Renaissance, l'idée de la mortalité au sens actuel, est très différente et difficile pour nous, d'ailleurs, à imaginer. C'est l'idée que entre la naissance et l'âge limite, les 120 ans de la Bible, par exemple, il va simplement se produire deux types de phénomènes, des hasards qui sont peu maîtrisables, mais surtout des hasards qui vont provenir régulièrement, donc qui ne vont pas faire qu'il y aura des différences de risque de décès à chaque âge, et puis certaines années dangereuses. Et c'est alors une littérature énorme qui porte sur les années climactériques, c'est-à-dire que les années divisibles par les âges divisibles par 7 et par 9 sont réputées être des âges extrêmement dangereux, et particulièrement les grandes climactériques, c'est-à-dire quand c'est 7 multiplié par 9, 63 ans, ou bien 9 par 9, 81 ans. Et d'ailleurs, 81 ans sera le terme encore que Leibniz utilisera pour construire une table de mortalité. Et vous remarquerez que beaucoup des âges de la vie ont été marqués par ces chiffres 7 et 9. 7, c'est l'âge de raison. 21 ans, ça a été pendant longtemps l'âge de la majorité. Et c'est sur cette conception de la vie, c'est à cette conception de la vie que se sont au fond attaqués les observateurs du milieu du XVIIe siècle et du début du XVIIIe. Ils ont commencé à mesurer empiriquement les risques de décéder et ils se sont aperçus qu'ils étaient très variables selon l'âge. Et du coup, la longévité a été reléguée en arrière-fond. Olivier faisait allusion à ce qui subsiste ou bien aux pratiques ou bien aux croyances concernant la longévité. Elles se sont effectivement réfugiées, par exemple, dans le mouvement des Rose-Croix ou bien dans tout ce qui est macrobiotique qui va se développer au XIXe siècle. Et puis, c'est la mortalité qui va dominer. Et dans cette domination de la mortalité, un actuaire anglais, Benjamin Gompertz, va faire en 1925 une découverte assez intéressante. Il va remarquer qu'à partir de l'âge de 35 ans, le risque de décès, c'est-à-dire la probabilité que vous avez de mourir dans l'année, augmente régulièrement, c'est-à-dire est multiplié chaque année à peu près, ça augmente de 10% à peu près chaque année, multiplié par 1,1. Ce qui fait qu'on démarre bas, mais ça s'accroît de plus en plus, et c'est d'une régularité, peut-être Jean-Marie Robin vous montrera une courbe de mortalité, où vous verriez que c'est une des régularités les plus étonnantes des sciences sociales. La droite est presque parfaite, ou du moins était presque parfaite. Elle était presque parfaite parce qu'on avait des chiffres jusque vers 90 ans. Et des auteurs, dans les années 1950, se sont dit, mais au fond, puisque c'est vrai jusque vers 80-90 ans, si on prolonge la droite à un moment donné, puisque le risque est multiplié chaque année par 1,1, 1, puisqu'il augmente de 10%, il va arriver à 1, et à l'endroit où il arrive à 1, ça veut dire que on a une chance sur une de décéder dans l'année, donc c'est l'âge limite. Donc il existe un âge limite. Et un polytechnicien démographe, Paul Vincent, a calculé cet âge limite à partir des données de mortalité qu'il possédait. Il a trouvé 107 ans. Et ce 107 ans était, en plus de ça, ce qui était un peu fascinant, vrai pour pratiquement toute l'étape de mortalité qu'il observait. Elle convergeait vers ce point ultime. Et donc, il y avait un âge limite qu'on ne pourrait pas dépasser. Alors, ça, c'était trop beau pour être vrai. D'abord, trop beau, ce n'était pas les 120 ans de la Bible, ça n'était pas trop loin, mais ce n'était pas les 120 ans de la Bible. Et puis surtout, un très bon probabiliste, William Feller, a fait une objection, une première objection. Il a dit, mais ce n'est pas... c'est peu, logiquement, ce n'est pas pensable, parce qu'une personne qui atteindrait presque 107 ans, qui serait une minute avant 107 ans, serait sûre de mourir la minute suivante. C'est peu probable, c'est peu crédible. Ça ne marche pas humainement. Et puis surtout, un très grand statisticien italien, Bruno De Finetti, qui s'était d'ailleurs réfugié en France dans l'entre-deux-guerres, a dit, mais si le risque, et là c'est une petite chose, qui, je vous demande de me croire, mais c'est un argument mathématique, mais si le risque chaque année augmente de 10%, si vous calculez l'augmentation du risque sur 2 années ou sur 6 mois, elle ne sera pas régulière. Ce n'est régulier que pour la période d'une année. Donc il n'y a aucune raison que la période de calcul du risque soit retenue, et il n'y a aucune raison qu'on on fasse allusion à cette limite. Si on prend 6 mois, on a une courbe différente qui va vers une autre limite. Donc l'idée était en quelque sorte farfelue. Alors, De Finetti et Vincent se sont battus dans les revues de statistiques. Je donnerai plutôt, et je crois que la communauté scientifique a donné raison à De Finetti, d'autant qu'une élève de Vincent a trouvé, qui a repris les calculs quelques années plus tard, a trouvé que cet âge s'était décalé et que désormais, c'était 114 ans l'âge limite. Donc, il perdait beaucoup de sa crédibilité. Et puis, je crois que... il a achevé de perdre sa crédibilité quand, à partir des années 70, mais vous le verrez dans l'exposé ou dans le milieu des années 70, notamment dans l'exposé de Jean-Marie Robin, un véritable changement s'est produit. Au lieu que les risques tendent à se rapprocher, quelles que soient les années, quels que soient les pays, quand on approche de 100 ans ou de 105 ans, ils ont au contraire été beaucoup plus... ils se sont accrus en quelque sorte... parallèlement, il y a eu un décalage de l'âge et on s'est aperçu que donc si jamais il y avait un âge ultime, malgré les objections, eh bien cet âge se décalait de plus en plus. Et dans les années récentes, les travaux sur la mortalité aux grands âges ont montré que, en plus de cela, cette régularité extraordinaire à laquelle avait cru Vincent et qui avait été discutée, disparaissait quand on arrivait vers 97-98 ans, quand vous voyez les tables de mortalité actuelles que publie l'INSEE, par exemple la dernière qui concerne l'année 2005, eh bien on voit qu'arrivé à peu près 97 ans, le risque se stabilise autour de un tiers de risque de décéder pendant l'année. Donc cette idée d'âge limite et cette idée de longévité qui on avait hérité de la Bible et de l'Antiquité peut être balayé. Simplement, on peut seulement dire on a un risque de plus en plus grand de mourir avant d'atteindre un âge de plus en plus grand, mais on ne peut pas fixer une limite, et en plus de cela, si on pouvait, cette limite vraisemblablement est en train de se déplacer. Mais en même temps, comme la mortalité aux âges relativement jeunes, jusqu'à 70-75 ans, a énormément diminué, on s'est remis à penser en termes de ce qui arrive aux grands âges. Donc, au fond, on a fait un retour vers, progressivement vers l'idée de longévité, vers le point de départ. Voilà une courte histoire.
Merci
de la longévité contre la mortalité.
C'est brillant et passionnant. J'ai envie peut-être de demander à Pierre-Henri Gouillon maintenant de revenir à Back to Basics. Qu'est-ce que c'est que vieillir? Parce que, et après, je voudrais aussi vous interroger sur la fin de ce qu'a dit Hervé Lebrun, c'est-à-dire sur ces questions d'accroissement potentiel, du potentiel d'accroissement que nous avons à la fois en termes de longévité et et d'une autre façon de durée maximale de vie. Mais d'abord, qu'est-ce que vieillir ? Pourquoi vieillit-on ?
Alors là,
parce qu'on pourrait imaginer...
Oui. On pourrait imaginer être éternel, oui, pourquoi pas. Il y a une première... Il y a quelques idées fausses, déjà, qu'il faut retirer tout de suite. Une première idée fausse, ça serait que nécessairement, toute cellule vivante vieillit et finit par mourir. Évidemment qu'il existe des cellules immortelles. Nous en avons chacun à l'intérieur de notre corps. C'est à la fin du 19e siècle qu'on a vraiment réalisé que notre corps était constitué de deux types de cellules extrêmement différents, qu'on appelait les cellules germinales et les cellules somatiques. Alors les cellules somatiques, c'est celles qui constituent notre corps, nos bras, nos muscles, nos nerfs, tout ce que voudra, nos yeux. Et puis toutes ces cellules-là, effectivement, quand nous mourrons, elles disparaîtront avec nous. Et puis il existe une autre lignée de cellules qui s'appelle la lignée germinale, qui est la lignée des cellules sexuelles, celles qui donneront éventuellement un descendant. Donc qui vont aboutir à fabriquer des spermatozoïdes si on est un homme et des ovules si on est une femme. Et vous voyez que ces cellules-là sont potentiellement immortelles, puisque, prenons l'ovule, parce que c'est lui la vraie cellule dans l'affaire, eh bien, nous sommes tous issus de l'ovule de notre mère, et si on remonte le temps, moi je trouve ça assez fascinant, de penser que toutes les cellules de notre corps sont issues de l'ovule de notre mère, et que cet ovule lui-même, eh bien, je peux suivre sa trace, et il était dans l'ovule de la mère de ma mère, puis dans l'ovule de mon arrière-grand-mère, etc. Et puis si je continue comme ça, en accélérant un peu le mouvement, ben, un jour ou l'autre, ça sera un ovule qui se trouve dans quelque chose qu'on appellerait plutôt un singe qu'un humain dans le langage actuel. Et puis si je continue encore, eh bien, je serai dans une cellule de poisson, et ainsi de suite, je vais remonter jusqu'à l'une des premières cellules de l'histoire de la vie. Donc, il existe bien des structures vivantes, immortelles, et elles nous traversent et se reproduisent à travers notre soma, à travers nos cellules somatiques, puisqu'évidemment, nos cellules germinales, elles ne pourraient rien faire si notre cellule somatique ne les nourrissait pas et ne les plaçait pas en situation de faire un descendant un jour ou l'autre. Donc, il n'y a pas de nécessité à ce qu'une cellule ou une lignée cellulaire s'éteigne. Ça, c'est le premier point qu'il faut bien dire.
Quand même, Pierre-Henri, ce qui est immortel, ce sont les gènes qui sont transmis de génération en génération. La cellule elle-même...
Alors la cellule elle-même, ça dépend ce qu'on appelle mourir. Si quand elle se divise, on dit qu'elle est morte à ce moment-là, bien sûr. Mais si jamais j'accepte l'idée que quand une cellule se divise, eh bien, elle reste vivante tant que les cellules qu'elle a fabriquées laissent elles-mêmes des descendants, non seulement les gènes sont transmis, mais même aussi il y a une continuité cellulaire. Il n'y a jamais des gènes qui sortent des cellules et qui en reprennent une autre. Les cellules sont des espèces d'autobus dans lesquels les gènes sont transportés, mais ces autobus, les gènes ne peuvent pas exister sans eux. Et donc il y a une vraie continuité cellulaire de l'origine de la vie à chacune de nos cellules. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important, parce que ça veut dire qu'effectivement, le vieillissement n'est pas une nécessité à cette échelle-là. Alors en plus, on a trouvé des tas de phénomènes comme la mort cellulaire programmée. Donc il existe des tas de cellules dans notre organisme qui sont programmées pour disparaître. Et pour beaucoup d'entre elles, c'est tout à fait positif pour nous. L'exemple, ça s'appelle l'apoptose, si on veut parler savant. Par exemple, l'embryon humain commence par avoir des doigts palmés. Et puis les cellules qui meurent, ce qui sculpte les doigts, si vous voulez. Donc c'est la sculpture même de la forme du corps se produit partiellement par mort des cellules, mais une mort programmée. Donc il y a des cellules qui meurent jamais, il y a des cellules qui au contraire sont programmées pour mourir. Il y a des mécanismes probablement anticancéreux qui amènent les cellules à ne pas pouvoir se diviser éternellement pour ce qui concerne nos cellules somatiques. Et donc la question de savoir pourquoi on vieillit, alors que d'abord qu'est-ce que c'est que le vieillissement, comment on définit la sénescence, on va la définir assez simplement, ça a déjà été un petit peu dit tout à l'heure, par la diminution des potentialités biologiques de l'organisme à partir d'un certain âge qui correspond en général en gros à l'âge de la première reproduction. L'âge théorique, pas l'âge réalisé, c'est-à-dire c'est pas parce que vous ne ferez pas d'enfant que vous ne vieillirez pas, mais c'est à peu près à l'âge où on commence à faire des enfants que le vieillissement commence, mais c'est assez grossier comme idée. Donc ce phénomène qu'on appelle aussi sénescence, c'est la baisse donc, de la capacité de survie, mais de toute une série de capacités biologiques. Et la question de savoir pourquoi est-ce que ça arrive, eh bien, a été une question fort débattue, mais elle a amené quelques considérations théoriques assez fortes. Hein. Le premier point qui a été remarqué, c'est un dénommé Haldane, un généticien du début du XXe siècle, qui a fait remarquer que si jamais on avait dans notre génome un gène qui avait des effets négatifs, eh bien, normalement, la sélection naturelle, en faisant que les individus qui portent ce gène, puisqu'il a des effets négatifs, ben, ils survivent moins ou ils se reproduisent moins que les autres, eh bien, au fur et à mesure, ce gène va disparaître sous l'action de la sélection naturelle. Mais si ce gène a des effets négatifs, mais qui ne se font sentir que tard dans la vie de l'individu, hein, c'est-à-dire que vous voyez bien qu'un gène qui fait qu'un individu a des chances, a plus de chances de mourir qu'un autre, si jamais c'est un gène qui agit quand l'individu a 15 ans, ça va avoir des répercussions très fortes sur les capacités de survie de l'individu. Donc, un gène comme ça est très fortement contre-sélectionné, la sélection naturelle va l'éliminer facilement. Un gène dans une espèce comme la nôtre qui ferait que l'individu a plus de chances de mourir à 75 ans va être déjà nettement moins contre-sélectionné parce qu'il y a très peu de gens qui font encore des enfants après 75 ans. Donc, le résultat... Alors, bon... Ça se mord un peu la queue, hein, cette histoire, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui font des enfants à 75 ans, c'est justement parce qu'il y a des gènes qui font qu'ils sont moins en forme à cet âge-là. Mais n'empêche qu'à partir du moment où il y a une mortalité non dépendante des gènes, si par exemple, imaginez par exemple qu'une espèce dans laquelle les individus ont une chance sur 10 de mourir chaque année, bon, ben, il y aura très peu d'individus dans cette espèce-là qui atteindront 20 ans. Évidemment, un gène qui a des effets négatifs sur l'individu, mais qui ne s'exprime pas avant l'âge de 25 ans, va être très peu contre-sélectionné. Et donc, tout compte fait, peuvent s'accumuler dans le génome des espèces, et ça, c'est la première hypothèse, et ça reste une hypothèse forte pour expliquer le vieillissement, la sénescence, c'est que, tout compte fait, s'accumulent dans le génome des espèces des gènes qui sont un effet négatif, mais qui n'agiront que tard par rapport à l'âge moyen normal dans lequel les individus de cette espèce vont vivre et vont se reproduire. Et en plus, évidemment, c'est un effet auto-entretenu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a suffisamment de gènes qui font que dans mon espèce de tout à l'heure, les individus ont très peu de chances de dépasser 20 ans, et bien n'importe quel gène qui détériore encore la situation à l'âge de 20 ans n'a plus aucun effet. Voilà. Donc, tout ça, c'est l'effet de la sélection naturelle, simplement l'effet de la sélection naturelle qui n'est pas assez efficace pour maintenir l'individu en bonne forme pendant très très longtemps, sachant que, évidemment, cette sélection naturelle, qui n'agit que sur la reproduction des gènes de génération en génération, va faire que tout gène qui a déjà été bien reproduit par un individu, qui a fait beaucoup de descendants, eh bien, si l'individu meurt, du point de vue de la sélection sur le gène, ça n'a plus beaucoup d'incidence. Il y a déjà plein de descendants qui possèdent le gène. La deuxième phase de la réflexion des évolutionnistes sur la question, hein, après cette première phase qui expliquait pourquoi des gènes délétères pouvaient s'installer agissant à des âges avancés, relativement à cette espèce-là, bien sûr, pour une souris, un âge avancé, c'est 4 ans. Eh bien, la deuxième hypothèse, c'est celle qu'a sortie Williams au milieu du XXe siècle, dans laquelle il propose l'idée que si jamais par hasard apparaissait... admettons que vous ayez un génome d'individus tout à fait tous pareils, et puis apparaît un gène qui améliore les performances de l'individu quand il est jeune, tout en les détériorant quand il est vieux. Ou alors qui améliore les performances reproductives de l'individu, mais en détériorant ses capacités de survie. On voit bien que ce genre de gène va pouvoir être éventuellement facilement sélectionné par la sélection naturelle, puisque ce qui compte, c'est le nombre de descendants laissés. Donc, entre un individu qui vivrait 100 ans, qui laisserait 5 descendants, et un individu qui vivrait 50 ans, qui en laisserait 10, la sélection naturelle favorise le deuxième, sans problème. Donc, on a développé à partir de là ce qu'on a appelé l'hypothèse du soma jetable. Vous voyez que les cellules somatiques de notre corps peuvent être vues comme un moyen par lequel les gènes dans les cellules germinales se sont reproduits au cours des générations. Et ce soma, eh bien, il peut être plus efficace d'en fabriquer un qui soit bien fort au début, et puis on le jette quand il a suffisamment travaillé. Vous voyez, alors il faut peut-être donner un exemple pour être un peu plus concret. Imaginez par exemple, on a des exemples un peu précis sur des choses très techniques, je vais essayer de l'être moins ici. Imaginez que pour faire un enfant qui grandit bien, eh bien, il faille transporter dans son sang beaucoup d'acides gras, beaucoup de cholestérol, de manière à lui fournir tous les éléments pour se construire. Évidemment, à force de trimballer des acides gras et du cholestérol, eh bien, les artères finissent par se recouvrir d'une plaque d'athérome, hein, qui va finir un jour ou l'autre peut-être par faire un accident cardiovasculaire. Vous comprenez bien qu'il peut être sélectionné. La sélection naturelle peut très bien favoriser le fait qu'il y ait un taux d'acides gras et de cholestérol dans le sang des individus, qui soit celui qui maximise l'espérance du nombre de descendants de l'individu et qui n'est pas celui qui maximisera la durée de vie de l'individu. Donc si on n'oublie pas que la sélection naturelle favorise constamment les gènes qui laissent le plus de copies d'eux-mêmes à la génération suivante, on comprend bien comment la sélection naturelle a pu favoriser des gènes qui diminuent la durée de vie pour peu qu'ils augmentent la fertilité ou les différents ou la capacité à résister à telle ou telle agression chez les jeunes. Voilà, donc en gros, hein, l'idée qu'on a actuellement dans le domaine de l'évolution, c'est que jusqu'à l'âge de la première reproduction, la sélection naturelle favorise exclusivement les gènes qui vont faire du bien à l'individu, qui vont le rendre plus efficace, etc. Mais dès que l'individu s'est reproduit, eh bien, commence à exister cette contradiction, si vous voulez, entre le fait d'être efficace maintenant et le fait de durer longtemps.
Aujourd'hui, il y a un certain...
Juste une expérience pour vous dire comment ça marche pas mal. Chez les mouches, par exemple, on peut sélectionner facilement des mouches qui vivent deux fois plus longtemps que des mouches normales. Simplement, elles sont quasiment stériles.
Alors, comment se fait-il, justement, ça fait une parfaite transition pour ma question, comment se fait-il qu'on lise beaucoup de... ou qu'on entende beaucoup de biologistes d'obédience variée nous dire que nous allons pouvoir, grâce au progrès de la génétique, de la biochimie, etc., cellulaire, que nous allons pouvoir retarder très sensiblement le moment, non seulement le moment de la mort, mais les étapes de la sénescence et donc vivre jeune de plus en plus longtemps. Est-ce que, dans quelle mesure vous sentez-vous en phase avec ce discours que je reconnais tout à fait simpliste? Et qu'avez-vous à dire sur cette tendance qui paraît, qui reste par rapport à ce que disait Hervé Lebras dans son introduction, qui reste très présente, pratiquement aussi présente aujourd'hui que naguère. Cette idée qu'on pourra trouver un remède contre le vieillissement, que vous venez de dire nécessaire, implacablement. Décidé par les lois de la sélection naturelle. Cette idée, elle est très ancienne. Elle a été exprimée de 36 façons. Et elle est aujourd'hui toujours très présente. On en lit sans arrêt des articles, y compris dans les revues scientifiques de haut niveau, sur les perspectives ouvertes par telle ou telle voie du progrès scientifique.
Bon, il y a deux, trois points. Le premier, et j'espère qu'on finira par là, parce que je pense qu'il y a une discussion quand même importante à avoir avec vous, c'est la question de la légitimité de ce type de demande. La question de savoir jusqu'à quel point est-ce que le fait que les humains ne veulent pas mourir et veulent vivre vieux rend légitime le fait qu'on dépense des sommes importantes et qu'on mette en place toute une série de structures pour qu'ils puissent vivre vieux. Mais ça, j'en parle pas tout de suite, je pense que ça fait partie des choses importantes. C'est la première réaction que je vais avoir par rapport à ce que vous dites là. La deuxième question, le deuxième aspect devant cette question, c'est est-ce que on peut penser raisonnablement qu'on va y arriver en admettant qu'on veuille y arriver, ce qui n'est pas mon cas, hein, je vous le dis tout de suite. Si on voulait y arriver, ce que je vous disais sur la sélection naturelle, c'est vrai que la sélection naturelle sélectionne des gènes qui ont certaines particularités. Mais ces gènes ne s'expriment jamais hors environnement. Donc tous ces gènes s'expriment dans un environnement donné. Et la sélection dont je vous parlais, elle s'est passée dans l'environnement des ancêtres des espèces actuelles. Donc on peut toujours imaginer qu'en changeant l'environnement, on va changer la façon dont ces gènes s'expriment et donc le résultat, éventuellement en termes de vieillissement, de ces phénomènes. Alors, pourquoi est-ce que c'est envisageable? Qu'est-ce qu'on peut envisager par rapport à ce que je vous ai dit? Premièrement, les premiers types de gènes du vieillissement dont je vous ai parlé, ceux qui sont simplement là parce qu'ils n'étaient pas tellement éliminés jusqu'à présent, ben ceux-là, à la limite, on pourrait imaginer les corriger puisqu'ils servent ils n'ont rien de bon, ils sont juste mauvais, ils sont juste là parce que, bien qu'ils soient mauvais, ils n'étaient pas contre-sélectionnés vu qu'ils agissaient trop tard pour que la sélection agisse sur eux. Donc ceux-là, si on trouvait un moyen de compenser leur effet, on peut imaginer bien sûr faire de la thérapie génique, mais on peut aussi imaginer compenser leur effet en donnant à l'individu ce que le gène ne lui donne pas, par exemple. C'est possible, on peut imaginer des choses comme ça. Le deuxième aspect, c'est les effets de compensation dont je vous ai parlé ensuite. Si jamais il y a des phénomènes de compensation entre des capacités pour le jeune et la durée de vie de l'individu, après, quand il est plus jeune, eh bien, on peut imaginer effectivement gagner aussi là-dessus. Par exemple, si on soigne suffisamment les maladies infectieuses, il devient moins utile de disposer d'un système immunitaire ultra-performant. Si jamais on a une nourriture plus régulière, eh bien, on peut espérer vivre plus vieux en ne dépensant plus les choses qui étaient utilisées pour supporter une nourriture très variée, demandant une adaptation digestive, etc. Donc vous voyez, on peut toujours imaginer qu'en changeant l'environnement et en agissant à la fois donc sur l'environnement lui-même et puis sur les aspects, en agissant à travers l'environnement, non seulement sur directement la façon dont le gène s'exprime, mais aussi sur le fait que du coup, parce qu'on a changé l'environnement, parce qu'on a une meilleure médecine contre les maladies, bah, du coup, on peut ne plus avoir besoin d'un système immunitaire très fort et du coup, trouver des produits qui, en diminuant le système immunitaire, augmentent la durée de vie de l'individu. Pourquoi pas, hein ? Donc voilà, vous pouvez imaginer des choses comme ça. Étant donné l'état actuel de nos connaissances, il est évidemment tout à fait scandaleux de prétendre, comme certains le font actuellement, qu'il y a des gens qui sont nés déjà aujourd'hui, voire même qui ont déjà atteint 50 ans, si je me souviens bien, et qui, eux, connaîtront les âges très avancés, 250 ans ou plus. Ça je pense que c'est évidemment faux.
1000 ans,
voilà, c'est extraordinaire. Je pense que, évidemment, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a toujours cette chose chez les scientifiques qui est un peu désagréable, qui est le fait qu'ils risquent pas grand-chose à prédire des choses qui se passeront suffisamment tard, et que donc si ça peut leur apporter des crédits, eh bien pourquoi pas faire des prédictions qui soient extrêmement utiles pour l'obtention de budget, sachant que de toute façon ils paieront rien du fait que leurs prédictions ne se sont pas réalisées.
Alors cela dit, Jean-Marie Robin, pour revenir à la démographie, nous savons bien que la longévité a doublé depuis 200 ans. Autrement dit, et on peut supposer que l'environnement était pour quelque chose. Donc pourquoi cette évolution ne continuerait-elle pas ? Je sais que ce n'est pas exactement le point de votre exposé, mais vous allez quand même rentrer dans le détail de cette révolution de la longévité que nous vivons aujourd'hui. Et nous reviendrons ensuite aux questions qui ont été évoquées à l'instant.
Oui, d'autant plus que moi aussi j'ai hâte de revenir à ces questions qui, je crois, sont essentielles. Moi, j'ai quelques slides, contrairement à mes partenaires. En fait, j'ai été ravi qu'Hervé Lebras commence par dire que, on a d'abord parlé de longévité, puis de mortalité. Peut-être qu'on revient à la longévité. En fait, c'est bien le constat. Moi, je suis à la fois épidémiologiste et démographe. Je suis à l'INSERM. Et c'est bien le constat que j'ai fait. Tous mes collègues ne parlaient que de mortalité, que de causes de mortalité, que de maladies. C'est pour ça que mon laboratoire à Montpellier est consacré à la longévité et à la santé, qui, effectivement, il y a une vingtaine d'années, était regardé par personne. Enfin, on ne s'intéressait qu'à ces questions de mortalité et de longévité. Et le constat, quand on veut parler de la révolution de la longévité, c'est effectivement cette accumulation absolument incroyable du nombre des centenaires en quelques années. Au Japon, il n'y avait pratiquement pas de centenaires dans les années 70. Leur nombre est multiplié par 4 tous les 10 ans. C'est absolument incroyable. En France, on fait presque aussi bien. Et il y avait, d'après l'INSEE, au 1er janvier 2008, 20 000 centenaires en France, ce qui fait que la multiplication n'était peut-être pas par 4, mais au moins par 3 pour les 10 dernières années. Mais apparemment, l'INSEE s'était un peu trompé parce qu'au 1er janvier 2009, l'INSEE annonce qu'il n'y a que 14 000 centenaires en France, ce qui correspond pour le coup bien à un doublement tous les 10 ans en France, comme par exemple on le trouve en Angleterre, qui simplement nous renseigne sur l'incertitude très grande qui règne aujourd'hui dans un pays comme la France sur le nombre des personnes très âgées, tellement les chiffres sont en train de changer très très vite. Et donc ça, je voulais le dire. Et c'est d'autant plus intéressant que, par exemple, si on prend les grands auteurs, et Flick, il a failli avoir le prix Nobel parce que c'est l'homme de la limite des Flick, la fin de la division cellulaire. Il écrivait encore dans ses textbooks au milieu des années 90 qu'il n'y avait aucune évidence qu'il y avait un changement dans la durée de vie de l'homme qui était d'environ de 100 ans et que ça a toujours été comme ça. Et que l'âge maximum atteint était, mettons, de 100 ans en 1850, de 115 ans en 1900, etc., ça serait une bonne évidence que la longévité humaine est en train de changer. Alors, en fait, on peut montrer facilement que c'est effectivement ce qui s'est passé. Par exemple, ici, on a l'exemple de la Suisse. Les longévités maximum atteintes étaient d'environ de 98 à 100 ans dans les années 1900, de 102 à 104 ans dans les années 60. Et maintenant, dans un petit pays, il y a 7 millions d'habitants en Suisse, touche les 110 ans tous les ans. Dans un pays comme la France, on atteint à peu près tous les ans des gens qui atteignent aujourd'hui l'âge de 114 ou de 113 ans. Mais ça démontre absolument pas que la longévité humaine intrinsèque à la Buffon, je dirais, ait changé au cours des dernières années. Alors nous, on s'intéresse effectivement à cette question de savoir pas quels sont les taux de mortalité ou les causes de mortalité, mais combien de temps vivent les adultes. Parce que le problème, quand on raisonne sur l'espérance de vie, on sait tous que l'espérance de vie augmente de 3 mois en France depuis très très longtemps, comme dans tous les pays, c'est qu'on mélange en permanence finalement la survie des enfants, qui ne deviendront jamais des adultes, avec la durée de vie des adultes. Et là, on est en train de mélanger deux choses. Quetelet, le fondateur de la statistique sociale, a bien expliqué que si on veut avoir une idée du poids moyen des hommes, eh ben, on ne va pas mesurer des enfants et des adultes et mélanger tout ça. On fera bien attention qu'à ne mesurer, qu'à ne peser que des adultes. Et comme ça, ça donnerait une bonne indication de combien pèse l'homme. Alors, si on s'intéresse à la durée de vie des adultes, ben on va retomber finalement non pas sur un indicateur comme l'espérance de vie qui mélange tout depuis la naissance, mais sur, je dirais, une distribution normale, donc sur ce que nous a proposé Quetelet, de regarder quelle est la durée de vie la plus fréquente au décès, donc le mode des durées de vie qui va devenir l'indicateur central pour nous, quel est l'âge le plus fréquent pour mourir chez les adultes, ou quelle est la durée de vie la plus fréquente vécue par les adultes. Le deuxième indicateur, ça sera de mesurer la dispersion. Est-ce que la dispersion autour de cette durée de vie la plus fréquente est grande ou pas? Est-ce qu'elle se réduit? Et puis, bien sûr, de s'intéresser à la durée de vie maximum. Donc, en fait, on va remplacer l'espérance de vie à la naissance par ces trois indicateurs. Quelle est la durée de vie la plus fréquente des adultes? Quelle est l'importance de la dispersion des durées de vie individuelles autour de cette durée de vie modale, la plus fréquente, et quel est l'âge maximum atteint au décès? Alors, si on regarde... Alors, aujourd'hui, on a une base de données qui s'appelle la Human Mortality Database, qui est absolument fantastique, qui rassemble une quantité incroyable de données de mortalité pour plein de pays, qui permet très, très vite de répondre à des questions de ce genre. Et ici, j'ai sélectionné 9 pays qui sont soit des pays d'Europe de l'Ouest ou du Nord, les États-Unis, le Japon. Ce sont des pays qui ont les meilleures données de mortalité depuis très longtemps. Et là, on peut voir, par exemple, que la durée de vie la plus fréquente des femmes, en fait, depuis 1750, parce que c'est à partir de 1750 qu'on commence à avoir des données de mortalité de qualité en Suède, exactement en 1751. Et on voit qu'on va avoir de plus en plus de pays parce que les séries statistiques vont commencer successivement dans les différents pays. Et en 1750... la durée de vie la plus fréquente en Suède était déjà entre 70 et 75 ans. Et puis, cette valeur ne va pas beaucoup changer. Jusqu'en 1850, il n'y a pratiquement pas de changement. Entre 1850 et 1950, il y a quelque chose qui est assez confus sur le graphique. Mais en fait, c'est la période où les pays rentrent successivement dans la modernité, dans les transformations économiques et sociales, dans ce que nous appelons les transformations démographiques. Les transitions démographiques, pardon. Et en fait, tous les pays se retrouvent à peu près au même moment, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vers 1945 ou 1950. Et à partir de 1950, vous voyez qu'il y a une augmentation absolument régulière et fantastique, tout à fait identique chez les mêmes pays, de la durée de vie la plus fréquente. En fait, on passe d'environ 80 ans, 80 ans étant la durée de vie la plus fréquente des femmes en 1950, à des valeurs approchant ou dépassant 90 ans aujourd'hui. Et dans ce schéma, vous voyez ici précisément quelle était la trajectoire des durées de vie les plus fréquentes par les femmes françaises. Et donc, vous voyez que dans la dernière période, il y a cette augmentation extrêmement régulière. Alors, si on s'intéresse maintenant à la déviation des durées de vie individuelles autour de cette valeur la plus fréquente, eh ben, on va, pour tous ces pays, globalement, observer une réduction au cours du temps de la dispersion des durées de vie. On a parlé d'homogénéisation des durées de vie ou de concentration de la mortalité. Alors, quand on met les deux phénomènes ensemble, on a, hélas, sur l'ensemble des tables disponibles pour 25 pays dans la Human Mortality Database, donc on a environ 5000 tables de mortalité, on observe bien au cours du temps une augmentation de l'âge modal au décès qui passe d'environ 70 ans à près de 90 ans aujourd'hui dans un pays comme la France ou le Japon, à une réduction de la dispersion des durées de vie individuelles autour de cette valeur centrale, mais la relation n'est pas linéaire, elle est clairement curvilinéaire, c'est-à-dire, vous voyez, elle suggère que si les durées de vie modales continuent à augmenter, peut-être que la dispersion, elle, va plafonner, ne va pas continuer à diminuer. Et ça, c'est un phénomène particulièrement intéressant parce que cette stagnation dans la réduction de la dispersion, je dirais, explique pourquoi dans un pays comme au Japon, on a une explosion du nombre des centenaires qui a été multiplié par 4 au cours des dernières années. Je vais vous redire à peu près la même chose, mais en vous montrant des données historiques et en vous montrant à peu près tout ce qu'on sait, en fait, de façon chiffrée sur la longévité des adultes. Les premières données qu'on a datent de la fin du XVIIe siècle. Elles ont été publiées par Allais. Et je croyais que c'était des données empiriques jusqu'à ce que je lise des travaux d'Hervé Lebras qui ont démontré l'organisation climatérique de ces données. Et donc là, je ne sais pas. Maintenant, c'est possible qu'Allais ou Neumann ou quelqu'un d'autre ait trafiqué ces données. Et en fait, on n'a peut-être pas là des données empiriques. Et peut-être que, dans le fond... Sans le savoir, ils ont caché quelque chose d'important. Ça, ce sont vraiment les premières données disponibles qui nous renseignent sur l'âge au décès des individus dans notre société. On n'a pas de données plus anciennes. Après, les données suivantes, ce sont les premières séries statistiques modernes qui proviennent de Suède, qui datent du milieu du XVIIIe siècle. Et vous voyez que les deux courbes sont très, très proches. En fait, toutes les courbes que je vais vous montrer distribuent les durées de vie pour 100 000 personnes à la naissance. Je ne vous montre pas ce qui se passe avant 10 ans, parce que ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. C'est juste pour regarder la distribution de la durée de vie des adultes. Et vous voyez qu'en fait, la courbe d'Allais et la première courbe pour la Suède au milieu du XVIIIe siècle sont très, très proches. Il y a une dispersion extraordinaire de la durée de vie des adultes. On meurt à peu près à tous les âges de la vie. Mais quand même, les données suédoises nous montrent qu'il y a un peu plus de décès vers 70-75 ans. Il y a un bébé mode. Et quand commencent les premières séries statistiques en Suisse 125 ans plus tard, vers 1875, eh bien, la Suisse a strictement la même distribution des durées de vie. Il y a simplement plus d'individus dans cette distribution parce que la mortalité infantile a diminué, plus d'enfants sont devenus adultes. Mais c'est exactement la même distribution. Elle est centrée sur 70 ans et la dispersion est tout à fait identique. Et puis... En 1950, là j'ai pris la distribution japonaise, mais elle est représentative de toutes les distributions des pays développés, de l'Europe de l'Ouest, du Nord ou de l'Amérique du Nord. Et là, la distribution est centrée sur 80 ans. Et c'est à ce moment-là, un petit peu plus tard, que James Fries a proposé la distribution ultime, en disant, avec la découverte des facteurs de risque, avec la découverte dans les années 70 qu'il n'était pas bon de fumer, il n'était pas bon de trop manger, il n'était pas bon d'être devenu sédentaire et de ne pas faire du sport, si on adoptait des régimes alimentaires équilibrés, si on cessait de fumer et si on faisait du sport, on allait éliminer toutes les maladies dégénératives, on allait repousser les premiers décès vers 70 ans et on allait repousser les limites de la vie à une valeur centrale de 85 ans et nous serons tous extrêmement homogènes en termes de durée de vie, 85 ans, plus ou moins 4 ans. Et c'est cette courbe extrêmement concentrée où 10% de la population meurt exactement à l'âge de 85 ans. Personne n'est mort avant 70 ans et tout le monde est mort à 100 ans. Il n'y a pas plus de centenaires dans le schéma de Fries qu'il y en avait au néolithique. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'article de Fries est paru en 1980 dans le New England Journal of Medicine. Aujourd'hui, on a des données. Lui, bien sûr, il n'en avait pas à cette époque. On a des données pour les années 80. Et là, vous voyez en violet la distribution des durées de vie des femmes japonaises la même année. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où James Fries publiait ses travaux comme étant la durée de vie ultime, c'est-à-dire l'endroit où qu'on tendait à atteindre et qu'on n'atteindrait jamais, en fait, les femmes japonaises avaient déjà atteint 85 ans en termes de durée de vie la plus fréquente. Simplement, il y a à peine 5% des femmes japonaises qui meurent à cet âge-là, et on voit bien que la durée de vie des femmes japonaises est beaucoup plus dispersée, en particulier à des âges très élevés, et c'est ça qui commence à expliquer l'explosion des effectifs de nonagénaires et de centenaires dans nos pays. Mais au-delà de ça, il y a quand même une très forte concentration des durées de vie entre, par exemple, la courbe en verte qui représente 100 ans plus tôt la distribution des durées de vie en Suisse, centrée sur 70 ans, et la courbe en violet qui représente la distribution des durées de vie 100 ans plus tard, en 1980, au Japon. Mais ça, c'était toujours en 1980, donc c'était il y a 25 ans ou quelque chose comme ça. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, regardez, ça, c'est la dernière courbe disponible pour le Japon. Il y a toujours eu une augmentation considérable de la durée de vie la plus fréquente au décès, mais il n'y a plus du tout de concentration des durées de vie autour de cet âge modal. Ça, je peux vous le représenter très rapidement comme ça. De 1950 à aujourd'hui, il y a une augmentation extrêmement régulière des durées de vie les plus fréquentes au décès au Japon. L'augmentation est quasiment linéaire. Pendant les 30 premières années, il y a eu une forte homogénéisation des durées de vie autour de la durée de vie la plus fréquente. Mais depuis 20 ans, il y a une légère fluctuation sur des valeurs qui ne diminuent plus. Et c'est ça qui fait qu'au Japon, aujourd'hui, on a une multiplication par 10 du nombre des centenaires. Alors, en une minute, le dernier point de mon introduction, c'est effectivement quel est le sens de ces évolutions démographiques, quel est l'état de santé de ces personnes extrêmement âgées que nous sommes en train d'accumuler très très vite. Et en fait, la question se pose parce qu'on a deux extrêmes. On a un pays au Japon où actuellement le nombre des centenaires est multiplié par 4 tous les 10 ans, ce qui veut dire que même si vous partez avec un tout petit nombre de centenaires, en quelques décennies vous finissez avec un nombre gigantesque. Ou bien une autre situation, c'est celle du Danemark, où parce que les taux de mortalité ne changent pas beaucoup, restent très élevés au-delà de 85 ans, eh bien, le nombre des centenaires augmente très lentement au Danemark. Au Japon, où le nombre des centenaires augmente très très vite, on a des indications très fortes d'une forte dégradation de l'état de santé des centenaires. Le nombre des centenaires confinés au lit est passé d'environ 20% il y a 20 ans, 30 ans, à 40% aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une proportion extrêmement importante de centenaires au Japon qui sont totalement dépendants de leur entourage. Alors qu'inversement, au Danemark, où le nombre des centenaires augmente que très lentement, où il reste très difficile de devenir centenaire, on assiste plutôt à une amélioration de l'état de santé fonctionnel des centenaires. Voilà. Et cette plaque permet de bien poser la question. Je l'ai empruntée à un ami, Jay Olchansky, qui met le background épidémiologique sur le déplacement des durées de vie. Si nous ne sommes pas capables de déplacer d'autant l'âge d'apparition des principales maladies, eh bien, après avoir vécu dans une période où les gens étaient fauchés au milieu de leur vie par des maladies comme les maladies cardiovasculaires ou les cancers qui ne généraient pas tellement d'incapacité, les gens vont demain vivre avec l'accumulation d'une quantité incroyable de déficiences ostéo-articulaires ou visuelles, ou etc., qui ne tuent pas les gens, mais qui amoindrit considérablement leur qualité de vie. Et donc là, il y a une vraie question et on n'a pas de réponse pour l'instant.
Donc vous avez une forme de réponse quand même à la question que j'ai posée tout à l'heure. Est-il souhaitable que la longévité moyenne continue de beaucoup s'accroître ? Ce n'est pas absolument évident, du moins si j'en juge par ces... Il y a une chose intéressante dans ce que vous avez dit. C'est juste un mot parce que c'était un préjugé très courant que vous avez évoqué, mais en creux. C'est celui l'espérance de vie étant, par exemple, il y a 2000 ans, ou même 2 siècles, d'ailleurs pas loin, de 40 ans, presque tout le monde mourait à 40 ans. Évidemment, non. C'est pas parce que l'espérance. C'est très important de bien distinguer entre l'espérance de vie et l'âge le plus courant, disons, de l'âge modal, parce que c'est un mot très technique, du décès. Et vous me disiez avant que nous commencions cette discussion qu'un de vos collègues américains venait d'établir que l'âge modal dans la Grèce antique était...
Oui. Alors, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Oui, c'est un collègue qui est un biologiste, c'est Caleb Finch, qui est un grand biologiste américain, qui qui a essayé de récupérer toute la documentation sérieuse, enfin celle qui n'est pas vraiment contestable sur la durée de vie des Grecs anciens, et il trouve une durée de vie modale de 70 ans.
Voilà, ce qui est très, tout à fait contraire aux idées que nous avons sur l'évolution de l'âge moyen auquel nous mourons. Alors, avant d'arriver à vos questions et au débat stricto sensu, je voudrais quand même dire un mot, bien que je n'ai plus beaucoup de temps, sur ce que Antoine d'Anchin aurait dit, mais qu'il n'a pas dit, et qu'il a écrit. Et je vais essayer de vous... Antoine d'Anchin, qui donc a fait l'essentiel de sa carrière à l'Institut Pasteur, qui est aussi mathématicien, comme Hervé Le Bras d'ailleurs, et généticien plus spécialement des bactéries, mais qui s'intéresse depuis longtemps à la théorie biologique dans son sens le plus abstrait, est en train de monter une entreprise pour poursuivre ses recherches sur la manière dont l'information se transmet de cellule à cellule et au sein du corps. Et alors, quelques mots pour essayer de comprendre ce qu'il nous aurait dit, mais je déforme forcément sa pensée, mais en même temps j'essaie d'être à peu près un vulgarisateur exact. D'abord, il ne sait pas dans son texte, mais pour l'avoir souvent entendu dire, je le dis, parce que là aussi c'est un préjugé courant, de penser que certains organismes ne vieillissent pas. Par exemple, on cite souvent les bactéries. Non, les bactéries vieillissent comme les autres, donc les bactéries vieillissent. Deuxièmement, oui, contrairement à ce que beaucoup disent et peut-être contrairement à ce que, d'une certaine façon, à ce que Hervé Le Bras a dit il y a un instant, il existe une durée maximale de la vie grossièrement fixée par espèce. Bien sûr, on ne peut pas la fixer de façon précise, mais il y a une sorte de limite vers laquelle, de limite maximale vers laquelle tend chaque individu d'une espèce donnée, et une limite qui n'est pas franchissable parce qu'elle est due à la nature du compromis particulier trouvé pour une espèce donnée entre, ça je me réfère là à ce que Pierre-Henri Gouillon disait tout à l'heure, entre sa capacité à produire une descendance sous forme de jeunes individus et sa capacité à réparer les cellules. Il y a vraiment un compromis qui... Alors ça, c'est un petit peu différent, c'est un tout petit peu différent de l'idée évoquée par Pierre-Henri Gouillon, mais elle a rejoint sous une autre forme. C'est cette idée que pour chaque espèce, et donc pour chaque individu au sein d'une espèce, il y a un compromis qui s'exerce entre la capacité à produire une descendance et celle à réparer ces cellules. Donc il y a un temps de vie moyen différent, propre à chaque espèce. Et alors, un signe de cette réalité, dit d'Anchin, c'est que depuis quelques années, enfin, ce qui change en ce moment, c'est, là, on rejoint un petit peu ce que disait Jean-Louis Robine, ce qui change en ce moment, c'est l'espérance de vie à la naissance et pas la longévité. Non, vous allez bondir. Depuis quelques années, dit-il, depuis Jeanne Calment, en fait, ça c'est une boutade, l'âge du plus vieil humain n'a cessé de décroître. C'est vrai, puisque c'est objectivement vrai, puisque l'âge du plus vieil être humain est inférieur à 122 ans et quelques atteint par Jeanne Calment. Et alors, ce qu'explique d'Anchin aussi, c'est que c'est la notion de réparation des cellules. En fait, le mot réparer n'est pas le bon mot. Le mot utile, c'est celui d'une destruction et d'une destruction, préservation et recréation en termes d'information. Sa grande métaphore, il l'a publié et s'en fait le titre d'un livre, c'est La barque de Delphes. Lapithi posait cette question, est-ce que quand le pêcheur a remplacé toutes les planches de sa barque parce qu'elles étaient usagées, est-ce que c'est encore la même barque? Eh bien, le pêcheur dit oui, c'est encore la même barque, et il a raison, parce que ce qui compte, ce ne sont pas les planches qui ont été remplacées, c'est l'information contenue dans la barque elle-même. Et donc, ce que dit Danchin, c'est que l'important pour dans les mécanismes de préservation du vieillissement et de reproduction, c'est de conserver l'information de base, c'est de conserver l'information contenue dans la barque. Changer les planches, ça veut dire disposer d'un instrument permettant de mesurer le vieillissement, ça veut dire détruire ce qui est vieux dans le corps, ça veut dire remplacer ce qui est vieux, remplacer les cellules qui ne fonctionnent plus, tuer les cellules qui ne fonctionnent plus, les remplacer par les cellules, nouvelles cellules qui fonctionnent, et puis en même temps prendre bien soin d'éviter de détruire ce qui marche. C'est toute cette mécanique de fonctions diverses destinées à préserver l'information de base qui est en jeu, et il y a des gènes qui sont spécialisés dans l'accomplissement de ces différentes fonctions. Donc tout ce dispositif peut être interprété en termes de création ou de destruction d'informations, de création, de destruction, de préservation d'informations, et si on considère les organismes, selon son expression, comme des pièges à information, eh bien les bébés sont les pièges d'une nouvelle barque de Delphes, d'un nouveau système d'accumulation de l'information. Et le titre de sa conférence aurait été « Les bébés naissent très jeunes ». Voilà. Alors je sens qu'il y a des petites choses dans ce qu'a dit Danchin qui sans doute n'attire pas l'adhésion absolue de certains de mes voisins. Mais peut-être que avant de vous redonner la parole, on pourrait donner la parole à la salle, et puis vous aurez l'occasion de rebondir.
Oui, bonsoir. Je suis ici, vraiment par hasard, je suis allemand, et philosophe et spécialiste Heidegger et Sartre. Et je pense qu'une discussion sur la vie des 120 ans ne peut pas se faire sans philosophie. Donc il manque un philosophe sur votre panel. Et moi, je ne vais pas faire un grand discours. Mais simplement de dire que le plus grand astrophysicien vivant, monsieur...
Hawking, peut-être.
Hawking, yes. Monsieur Hawking, qui a pratiquement la chaire de Newton à l'Université de Cambridge, il a établi plus ou moins la théorie que la matière, l'espace et la lumière ne fait qu'un, et la raison d'existence de ce un, c'est simplement exister. Et donc, dans la philosophie, nous n'utilisons pas des notions de progrès absolu. Si on le faisait, on tombait dans ce piège d'accepter l'existence d'un Dieu créateur auquel nous ne croyons plus du tout. Et donc, nous avons parfois des éclaircies au ciel de la philosophie, et des éclaircies comme ça, sans une valeur éternelle. Mais disons, les dernières, c'était une interaction entre Kierkegaard, Husserl, Karl Jaspers, Heidegger, Johanna Arendt, et en France, Merleau-Ponty et Sartre, et qui disaient plus ou moins l'existence prévaut les sens. Et pour terminer ça, on pourrait dire que si les êtres humains seraient, avec toute leur connaissance et toute l'intelligence et toute la persévérance, très capables d'un jour de vraiment produire en quelque sorte des milliards et des milliards de petits robots qui n'existeraient que pour travailler, manger et produire des choses. Ça serait terrible, comme vous le savez. Et donc, en réalité, la question ne se pose pas combien de temps nous allons vivre, mais avec quelle plénitude nous allons vivre notre vie.
Merci. Merci beaucoup pour avoir le courage d'avoir ouvert ce débat. Je demanderai peut-être je suis très sensible à l'intervention du philosophe. C'est vrai qu'il manque un philosophe à cette table, c'est clair. Encore que nous le soyons tous un petit peu, chacun de notre manière. Mais ce que je demanderai aux prochains intervenants, si possible, c'est de poser une question précise à l'un des intervenants.
Oui, bonsoir. J'aurais souhaité faire une remarque et effectivement après poser une question.
Mais il y a une remarque bon, par rapport au titre de votre conférence qui rentre dans une polémique qui s'inscrit dans un projet très large qui est celui de un projet postmoderne qui est celui de la transhumanité. Hein, et je crois que c'est un peu dommage effectivement qu'il n'y ait pas de philosophe, entre autres, à cette table pour parler de ce sujet qui est un sujet très 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 actuel. Par ailleurs, voilà, il y a un aspect qui n'a pas été évoqué, c'est l'aspect du découplement existant entre le vieillissement et la mort. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on travaille encore à l'heure actuelle? Je crois savoir qu'il y a des espèces de vers, effectivement, qui meurent sans vieillir, et que même des espèces de poissons, les esturgeons, par exemple, je crois, rajeunissent avant de mourir. Leur organisme rajeunit avant de mourir.
Pierre Aiguillon, ça s'adresse à vous, il me semble.
Oui, alors, non, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a des espèces qui ne vieillissent pas du tout, en tout cas pas celles dont vous avez parlé. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces chez lesquelles la plupart des individus sont morts avant d'être suffisamment vieux pour qu'on en voit vraiment les effets. Mais dès qu'on les élève dans des circonstances où elles ont très peu de chances de mourir d'accident, on voit le vieillissement se produire. Donc il y a peut-être quelques espèces qui sont effectivement exemptes de vieillissement. C'est des espèces qui sont à croissance continue. Par exemple, le trèfle, vous voyez, on a des trèfles qui sont plusieurs fois millénaires. Parce qu'un trèfle, au fond, on ne sait plus bien ce que c'est qu'un individu chez ce genre de plantes, parce que l'individu écologique et l'individu génétique deviennent différents. C'est-à-dire que l'individu écologique chez le trèfle, c'est un petit bout de stolon avec une feuille à 3 folioles, comme vous savez, et puis éventuellement une fleur, et puis quelques bourgeons qui vont pouvoir refaire un nouveau morceau. Alors ça, c'est l'individu écologique. Mais à partir d'une graine, vous allez avoir plein d'individus écologiques qui vont se fabriquer, et donc autant l'individu écologique, lui, il vieillit et il meurt comme n'importe quel individu, autant l'individu génétique, la somme de tous ces machins-là, semble relativement exempt de vieillissement. Mais à part ça, tous les êtres vraiment organisés, qui ne se clonent pas, qui ne se refabriquent pas des rejets constamment, on n'a jamais trouvé d'exemple où il n'y ait pas de vieillissement. Ce que disait dans sa lettre Antoine Danchin, c'est que même les bactéries vieillissent. Alors je dois dire que là, je trouve que c'est un tout petit peu compliqué de décider. En vrai, quand une bactérie se divise en deux, il est impossible de dire laquelle des deux est la plus vieille. Mais quand les deux nouvelles se divisent elles-mêmes en deux, on peut dire qu'il y en a, deux qui ont encore les bouts de l'ancienne bactérie, puis deux qui ont que des bouts nouveaux. Donc on peut décider comme ça quelle est la bactérie la plus vieille et voir si jamais il y a une probabilité de disparition plus grande de celles qui sont les plus vieilles dans ce sens-là. Et on a l'impression qu'on trouve ce genre de résultat, mais c'est quand même très préliminaire.
Ce sont des populations de bactéries auxquelles bien sûr. Mais Jean-Marie Robin, vous vouliez intervenir?
Oui, je voulais juste apporter une nuance. Je crois quand même un certain nombre de nos collègues parlent de vieillissement négligeable dans un certain nombre d'espèces. Comme
parce
par exemple,
qu'il meurt avant d'être, que ça se voit.
Oui,
dans
mais
la
c'est, c'était la question que moi je voulais relancer là-dessus. Comme par exemple les tortues. Et je sais qu'aux États-Unis, il y a un certain nombre d'universités qui ont des expériences avec des tortues, donc elles sont extrêmement protégées pour pouvoir justement durer très longtemps. On a même remis une année un prix à quelqu'un qui, pendant 35 ans, a suivi des tortues, les mêmes tortues. Et il semblerait qu'effectivement, là, ce que vous disiez, c'est que ce sont des espèces qui ne cessent jamais de croître. Donc il y a peut-être cette liaison avec la croissance. Et dans le cadre des tortues, moi, ce qui m'avait semblé le plus fascinant, c'est qu'au fur et à mesure que les tortues vieillissaient, à la fois, elles pondaient davantage d'œufs, et en même temps, la viabilité des œufs augmentait. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il y avait quand même dans quelques espèces quelque chose qui était complètement... mais c'était vraiment lié quand même au fait que... Ça, je suis d'accord que c'était des espèces qui n'avaient pas de... qui ne cessaient de croître en taille tout au long de leur vie.
Mais moi, je vous avoue que je serais quand même assez méfiant par rapport à ce genre de choses. Parce qu'évidemment, ces tortues qui peuvent vivre normalement au moins 100 ans, voire 200... Vous comprenez bien qu'avant de dire qu'il n'y a pas de vieillissement,
ouais, ouais,
il faudrait quand même des études qui soient beaucoup plus longues.
Il faut laisser plus que 35 ans.
Comment ?
Oui, oui, il faut laisser plus que 35 ans.
Voilà, donc moi, sincèrement, j'ai du mal à y croire. Une tortue, ça a quand même une forme finie. Peut-être qu'on n'a jamais vu des tortues qui arrivaient à la phase de ses naissances dans les conditions où on a pu le faire. Vous comprenez bien que 35 ans, c'est bien, mais voilà, le jour où on aura fait un suivi de 200 ans sur tout un paquet de tortues, là, je serais plus convaincu.
En fait, peut-être que les tortues n'atteignent jamais que 50% de l'âge maximal de leur vie.
Oui, c'est possible, oui. Et ce que je voulais, une chose intéressante d'ailleurs que je voulais vous dire, c'est que quand on regarde ceux qui sélectionnent des espèces à durée de vie longue ou courte, une chose qui est très nette, c'est que la mortalité chez les jeunes a tendance à sélectionner les gènes de vie longue, alors que la mortalité des adultes sélectionne les gènes de vie courte. La deuxième proposition est assez évidente. Vous voyez, imaginez que vous ayez des individus qui grandissent, qui se reproduisent, et après qui aient une bonne chance de mourir. Eh bien, du coup, ça va sélectionner toutes les constitutions génétiques qui amènent l'individu à tout investir dans la reproduction et à rien garder pour lui, puisque de toute façon, il a de bonnes chances de mourir après. Donc, sur le plan de la sélection naturelle, si la mortalité a tendance à avoir lieu plutôt après la reproduction, ça maximise la sélection pour les gènes qui mettent tout dans la reproduction et peu dans la survie. Au contraire, si la mortalité des jeunes est forte, alors on sélectionne des gènes de longue vie, puisque c'est ce qui se passe chez les tortues marines en particulier, puisque ces tortues marines, vous avez tous déjà vu voir les images, elles naissent sur la plage, le temps qu'elles aillent déjà de la plage à la flotte, elles ont été mangées par toute une série d'oiseaux qui se régalent. Donc en fait, en termes de sélection naturelle, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que c'est la mortalité infantile qui sélectionne les gènes de longue durée de vie. Et donc actuellement, dans l'espèce humaine, on est en train d'essayer de faire deux choses contradictoires. Diminuer la durée de vie, la mortalité infantile et augmenter la durée de vie des individus.
Monsieur.
Attendez, stop.
Merci. J'ai une question bien plus modeste, mais de caractère pratique, que je vais adresser au docteur Goujon, parce que figurez-vous que je me suis inspiré d'une idée de la Havane, Cuba, où spontanément il s'avait généré un club international, de son temps. Et il y a actuellement à Cuba, où Fidel Castro lui est largement invité, en attendant qu'il lui arrive à devenir centenaire. Mais j'ai pris cette idée comme une inspiration et j'ai créé un club international de son temps avec une idée de faire un travail d'information, de diffusion de l'information, des avancées de la science gérontologique et pour faire réalité quelque chose qui, à ma façon d'entendre, c'est une victoire de tout homme et de toute femme sur la terre, vivre son temps. Alors, c'est dans ce souci que je vous pose la question à vous, docteur. Je voudrais que vous puissiez concrètement me fournir, dans mon souci de rencontrer information pour faire circuler, à qui je dois m'adresser en ce qui concerne la quête des informations sur ces matières.
Je ne sais pas si je peux vous répondre. Je peux vous dire en revanche que quand on a commencé à savoir travailler sur les génomes humains, une des premières recherches qui a été faite, c'était la recherche de gènes spécifiques qu'on trouve dans les familles de centenaires. Et ce travail a été fait, effectivement, on a trouvé une constitution génétique qu'on trouvait beaucoup plus souvent dans les familles de centenaires que dans les autres. Et heureusement, on n'a pas tout de suite fait de la thérapie génique pour donner ces gènes à tout le monde, parce qu'on a découvert que ce gène, qui avait à la fois la capacité à augmenter la probabilité des individus de devenir centenaires et augmenter la probabilité de mourir d'une crise cardiaque à 40 ans. Et donc ça va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de compensation entre les effets d'un même gène peut avoir des effets positifs à un moment et négatifs à un autre dans l'histoire de la vie des individus. Donc, moi, je ne peux pas vous donner de lieu où vous trouveriez la liste des gens. Mais je voudrais répondre à votre question, que je suis entièrement d'accord avec monsieur tout à l'heure, sur le fait que quand vous dites que c'est une victoire pour tout homme d'arriver à 100 ans, je ne suis pas d'accord, je vous le dis tout de suite. Et je trouve même que c'est une défaite pour la société que d'être aussi incapable que notre société actuelle de ne pas accéder aux demandes déraisonnables de vie trop longue que veulent absolument les gens, et de consacrer des moyens aussi faramineux au fait de maintenir des gens en vie très longtemps, tout en laissant de côté toute une série de gens qui, eux, meurent de faim ou de divers problèmes quand ils sont jeunes. Donc, pour ce qui me concerne, je trouve qu'au contraire, c'est une des plus grandes défaites de nos sociétés que d'avoir chez nous des gens qui vivent centenaires aussi nombreux et ailleurs des tas de gens qui meurent en bas âge de façon aussi facile. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Quant au transhumanisme qui a été évoqué tout à l'heure, je pense qu'il faut en dire un mot. Effectivement, il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, l'évolution biologique de l'homme n'est pas assez rapide pour répondre aux questions, aux demandes des humains, et que donc dans cette folie dont je parlais tout à l'heure, alors carrément on va améliorer les humains en y mettant de la technique, des puces dans le cerveau, des muscles machin chouette, des yeux qui permettent de voir dans l'infrarouge, ça intéresse beaucoup l'armée évidemment. Moi, et évidemment le but ultime étant de devenir immortel d'une manière très simple, c'est que si on télécharge votre cerveau dans un ordinateur, eh bien là on pourra vous recopier de disque dur en disque dur éternellement. Je ne sais pas si ça vous tente, moi, le jour où les gens diront que la grande première victoire d'un humain c'est d'avoir de cette façon-là tenu 1000 ans, eh bien je dirais moi aussi que ça n'était pas une victoire. Voilà.
Hervé Lebras.
Je voulais dire sur ce point, quand vous dites que... c'est un désir d'atteindre 100 ans. Je crois que, justement, on arrive à un stade où des personnes assez âgées, des personnes brillantes, au contraire, estiment que c'est un petit peu une fatalité. Et d'ailleurs, j'en avais parlé à Olivier Postelbinet, il y a un interview de Lévi-Strauss qui dit... À un moment donné, il a une très belle image. Il dit « Je me sens comme un hologramme brisé. Je n'avais absolument pas prévu que je vivrais aussi longtemps. » Alors, il va pas se tuer pour cela. Mais il y a aussi un aspect qui est une sorte de fatalité dans cette prolongation de la vie jusqu'à 100 ans ou plus.
Ceci dit, je voudrais quand même insister sur le fait que ce qu'on connaît, c'est l'âge de la mort des gens qui sont morts et pas l'âge de la mort des gens qui sont vivants. Et que donc rien n'interdit de penser qu'on est déjà à un plateau, voire même qu'on va redescendre. Il y a des gens qui pensent que les gens qui vivent très longtemps actuellement sont ceux qui ont eu la chance de vivre dans un milieu relativement peu pollué, ou pas pollué par les polluants actuels en tout cas, quand ils étaient jeunes, et d'avoir quand même une bonne médecine après. Et il n'est pas impossible que les effets de notre médecine finissent par être plus que compensés par les détériorations de l'environnement que nous sommes en train de produire, et que si ça se trouve, la durée de vie redescende quand on connaîtra la durée de vie de nos générations et pas seulement celle d'avant. Je ne sais pas si les démographes sont d'accord avec ça.
Oui, alors, avec ce que vous venez de... Je ne sais pas, mais en tout cas, avec ce que vous aviez dit précédemment, sur que c'était un triste ou un échec, je ne sais pas quel mot vous avez utilisé, moi, je ne peux pas du tout être d'accord avec vous. Parce que, en fait, je ne crois pas, sauf peut-être dans quelques magazines, que la longévité soit un but en soi. Et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse d'Hervé Lebras, c'est que ce vieillissement des adultes qui se passe, et c'était l'objet de ma communication, qui s'est passé entre l'âge de 70 et de 90 ans, en gros, on commence à le réaliser aujourd'hui, mais il a commencé après 1950. Personne n'a cherché à l'atteindre, parce que à la fois le seul indicateur qu'on avait, c'était l'espérance de vie à la naissance, qui, elle augmente depuis longtemps et très très vite. Et le seul objectif qu'on avait, les seuls objectifs affichés, c'était de réduire la mortalité infantile ou de réduire la mortalité prématurée, et que jamais un médecin qui s'occupe d'une personne âgée a comme objectif de le faire durer. Et que, en fait, les seuls objectifs, c'est de soulager des maladies. Et le problème, c'est que, en tout cas, chez l'homme, dans nos civilisations actuelles, il n'y a pas de trade-off, enfin c'est le mot anglais pour il n'y a pas de compensation, il n'y a pas d'échange entre la quantité et la qualité. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup cru, c'est effectivement un modèle qui est très avancé par les biologistes, qu'il y a en permanence cette espèce de balance, de compensation entre quantité et qualité. En fait, et ça ce sont par exemple nos travaux sur l'espérance de vie sans incapacité, ont montré que ce sont les gens qui finalement ont les plus longues vies qui ont aussi les plus longues vies sans incapacité. Et que la longévité, c'est l'output général. Si vous avez une vie de qualité, vous allez durer longtemps. Si vous avez une vie médiocre, vous n'allez pas durer longtemps.
Je ne suis pas d'accord avec votre définition de la qualité.
Je vous laisse répondre.
Vous confondez qualité et non incapacité. Il y a une différence.
J'aurais pu dire la même chose en termes de qualité,
en termes de bonne santé, mais
en
là,
parlant de douleur, de
je vous parle pas seulement. Vous connaissez la fameuse histoire du type qui veut vivre très longtemps, qui va chez son médecin, qui lui dit vous mangez rien de très bon, vous fumez pas, vous faites pas l'amour, etc. Et vous vivrez longtemps. Et effectivement, le gars lui demande est-ce que vous êtes sûr que je vivrai longtemps si je fais ça? Et le médecin lui dit en tout cas, ça vous, le temps vous paraîtra très long. Dans votre définition, le type en question, il a une qualité de vie parfaite, hein, en faisant rien du tout. Donc je n'accepte pas cette définition. D'autre part, je voudrais vous dire que quand vous dites qu'il y a pas qu'on n'a jamais cherché à prolonger la vie au-delà de etc., c'est totalement faux. Excusez-moi, mais j'ai travaillé aux sciences de la vie du CNRS, j'ai été à la direction, je sais les budgets qui sont mis dans le biomédical et pas pour sauver des enfants. Si on mettait du budget dans le biomédical pour sauver les enfants, on s'occuperait des maladies africaines, pas des nôtres. Donc, on est d'histoire.
Pour poser une question, mais pas pour. C'est juste pour poser une question, s'il vous plaît, parce que sinon.
Sur quand même le point des pollutions et des. C'est possible, bien sûr, puisque par définition, on ne sait pas comment sera fait l'avenir. Mais si c'était le cas, on connaît quand même précisément, par exemple en France, la mortalité par âge et par cause de décès. Et notamment, il y a un très bel article qui a été publié, une synthèse qui montre depuis 1950 l'évolution de ces grandes causes de décès, âge par âge, pour les hommes et pour les femmes. Et à tous les âges, ces grandes causes régressent, sauf un cas. Alors on peut parler de pollution, le seul cas où il y a une augmentation, c'est les cancers des voies respiratoires et des voies digestives et respiratoire supérieur et du poumon chez les femmes. Et là, la pollution, c'est très clairement la cigarette. Mais pour tous les autres cas, ce qui augmente actuellement, c'est l'incidence. L'Institut du cancer de Lyon, qui fait de grosses enquêtes sur le sujet, montre que vraisemblablement, l'incidence d'un certain nombre de cancers augmente. Mais actuellement, à tous les âges, la réparation, le traitement fait diminuer la mortalité. Alors effectivement, ça peut changer, mais pour l'instant, il n'y a aucune indication qu'on se dirige vers ce changement. Ça serait une rupture brusque.
Dans notre numéro, nous faisons état d'une étude qui est publiée dans Science, qui est un des grands journaux scientifiques internationaux, c'était fait l'écho, d'après laquelle... mais les études sont faites pour être démenties, d'après laquelle les femmes dans la société actuelle vivent plus longtemps que les hommes, ça tout le monde le sait, en moyenne, mais celles qui vivent le plus longtemps, donc à âge égal, sont globalement en moins bonne santé que les hommes qui vivent aussi longtemps.
Non, mais je pense que ce que vous dites montre bien l'incertitude. C'est-à-dire que si jamais il y a une augmentation de l'incidence des maladies, mais qu'actuellement ça n'arrive pas à faire une diminution de la durée de vie parce que on arrive de mieux en mieux à soigner ces maladies, toute la question c'est de savoir si notre course pour guérir de mieux en mieux ces maladies va pouvoir continuer à compenser l'augmentation d'incidence. Et ça, c'est vrai que c'est difficile à prédire.
Mais en même temps, pour l'instant, l'expérience Et au fond, 60 dernières années montrent que c'est comme ça que ça s'est produit. Donc, bien sûr, ça peut s'inverser, mais il y a...
Je pense que ce à quoi il faut penser, c'est au coût de ces opérations. Parce que, en fait, le problème, c'est que la santé devient un poste budgétaire de plus en plus impossible dans des sociétés qui sont en train de rentrer dans une crise économique. Donc, moi, je ne ferai pas le pari que ce qu'on a vu pendant les 30 glorieuses et pendant les 30 qui, etc., après, on peut le produit faire de la futurologie en ligne droite. Hein.
Moi, je trouve que c'est bon et que les dépenses de santé augmentent. Ça me paraît être les meilleures dépenses auxquelles on puisse penser.
Je préférais l'éducation, je préférais l'intégration.
Je trouve que c'est mieux d'augmenter les dépenses de santé que d'augmenter les dépenses de bagnole ou bien...
C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas ça qu'on dépense moins. C'est sur l'éducation, c'est sur l'intégration dans les zones difficiles, c'est sur l'aide au tiers-monde qui reçoit quelque chose comme un dixième du budget des animaux de compagnie en France. C'est là que les budgets sont faibles.
Juste, alors je passe la parole à Jean-Marie Robin. Juste pour, et avant de dire un petit mot, c'est que nous avons aussi un entretien dans ce numéro avec un éminent démographe allemand qui s'appelle James Vopel et que vous connaissez bien l'un et l'autre. et qui dit que les jeunes Français qui naissent aujourd'hui ont une espérance de vie de 100 ans. Bon, alors allez-vous.
Oui.
Si on prolonge.
Mais... Non, mais je pense qu'il y a deux choses là, dans ce qu'on est en train de dire. Il y a d'une part, si on avait, et je crois qu'aujourd'hui on n'a pas encore, si on avait les moyens d'intervenir pour allonger la durée de vie des individus, et que ça coûte très cher, alors là, je ne sais pas dans quel cadre on se situerait. C'est vrai qu'on dépense énormément beaucoup d'argent pour la santé. Je ne sais pas si on le dépense toujours à bon escient. Est-ce que cet argent a effectivement un effet pour améliorer notre état de santé? C'est vrai que quand on regarde les plans directeurs de l'INSERM aujourd'hui, on voit que, en principe, le plus gros effort de recherche va être fait sur les nanomachines pour réparer les petites erreurs moléculaires, et que l'autre poste de recherche importante sera l'économie de la santé, parce que les premières recherches vont coûter tellement cher qu'il faudra bien trouver de l'argent pour les financer. Donc, quelque part, vous avez raison. Mais moi, ce dont je parle aujourd'hui, l'allongement de la durée de vie dont je parle aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce côté futuriste de demain. Les gens, les 20 000 centenaires qu'on a ou les 15 000 centenaires qu'on a aujourd'hui en France, c'est donc des gens qui sont nés en 1905 ou avant. Ce sont des gens qui ont un niveau d'éducation très peu élevé. C'est des gens qui étaient déjà des personnes âgées au moment où on a découvert les facteurs de risque, au moment où on a découvert qu'il ne fallait pas fumer, qu'il ne fallait pas trop manger, qu'il fallait faire du sport. Donc en fait, cette accumulation absolument incroyable de personnes très âgées s'est faite complètement en dehors de ça. Ce qu'il faut bien voir, donc il y a une espèce d'inertie absolument incroyable dans l'accumulation des progrès. Et toutes les dépenses que vous voulez engager dans l'éducation, dans le tiers-monde, dans l'écologie, toutes ces dépenses vont retentir immédiatement sur une amélioration de la durée de vie des individus. Toujours dans ce mécanisme d'accumulation du progrès.
Ceci dit, ces personnes ont quand même bénéficié des antibiotiques, de la chirurgie moderne, etc., pour la plupart.
Oui, ils ont aussi...
Oui.
Une autre question?
Oui, j'ai une question de l'incident. Mais une vraie question, s'il vous plaît.
Ouais. Donc, une question, puisque vous voulez une question, à vous quatre. Que pensez-vous de ce petit texte? Est-ce qu'on pourrait éviter, avec ce petit texte que je vais vous lire en 20 secondes, est-ce qu'on pourrait éviter toute dérive dans votre métier.
La réponse est non. Hein. Oui. S'il existait un texte qui puisse éviter toute dérive, ça se saurait déjà. Hein, mais...
L'antagonisme entre l'être en soi et l'être pour soi crée un... un énantissement qui nous jette fatalement et définitivement dans un espace de liberté totale. L'existence précède l'essence, l'homme n'a pas de nature, d'identité, il ne programme rien pour rien, il n'a pas de mission, il n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. L'homme doit se créer sa propre essence. Ce que j'aime dans ma folie, c'est qu'elle m'a protégé du premier jour contre les séductions de l'élite. Jamais je me suis cru un heureux propriétaire d'un talent. Ma seule affaire était de me sauver. Rien dans les poches, rien dans les mains, pas le travail et la foi. Jean-Paul Sartre.
Bon, alors vous avez l'art de poser des questions.
Pardon ? Non. Moi, je suis assez d'accord. Je me sens une petite fourmi, de toute façon, donc ça me va.
Y a-t-il encore d'autres questions dans la salle, ou bien est-ce que l'un des intervenants veut réagir sur l'un de ses collègues, ce qui est encore une possibilité ? Ce qu'a dit l'un des collègues. Un petit tour final, pourquoi pas, oui, tout à fait. Vous, qui veut attaquer?
Je voudrais bien, justement, sur le point philosophique, dire, oui. Est-ce de la philosophie, mais quand même, je voulais dire que il y a une façon, qui est d'ailleurs le petit texte que vous nous avez lu, qui est de dire, ben voilà, il y a la philosophie, puis le reste doit suivre. Mais il y a une autre façon, qui est de se dire, qu'est-ce que ça a apporté comme changement dans... dans notre vie, dans notre conception de la vie, ces changements de la mortalité, et est-ce qu'aussi, comment ils ont été créés par des changements dans notre conception de la vie? Je ferai deux remarques à ce sujet-là. Vous avez vu les courbes anciennes qu'a projeté Jean-Marie Robin, où on voit que le risque est fort à un peu près à tous les âges de la vie. Et je pense que c'est un rapport avec, par exemple, la conception très différente que les Grecs avaient de la mort. Il y a des très beaux travaux là-dessus, et notamment l'importance, la faveur qu'il y avait à mourir jeune, à mourir en héros. C'est parce que les risques étaient forts au cours de toute la vie. Donc ça créait, au fond, ça rendait la mort jeune beaucoup moins anormale qu'elle l'est désormais. On est... dans le même ordre d'idées, les décès, je vois, par exemple, on voit bien au XVIIIe siècle, où un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge de 5 ans. C'était d'une certaine manière terrible, mais c'était aussi ressenti très, très différemment. Par exemple, très souvent, un enfant portait simplement le prénom de l'enfant qui l'avait précédé, qui était mort en général dans les premières semaines. Et il était en remplacement. Puis un autre point est que, aussi sur cette relation entre les phénomènes sociaux et les phénomènes politiques et puis ceux qu'on vient de voir sur la mortalité, que assez curieusement, le début de maîtrise de la mortalité, par exemple le début de baisse de la mortalité infantile, coïncide au fond avec le moment où on a commencé à l'étudier comme on l'étudie avec des risques, avec des tables de mortalité. Donc c'est pas non plus neutre d'avoir mené ces études, et ça rejoint un thème qu'a développé un philosophe, après tout, Michel Foucault, qui est le thème de la gouvernementalité, c'est-à-dire à partir du moment où l'État ne s'est plus simplement intéressé à conclure des alliances, à conquérir des territoires, à vivre au fond de rapines, ce qui était le cas de l'État de Machiavel, eh bien, l'État a été amené à investir dans la santé de ces sujets. C'est le sens d'une très belle formule du premier philosophe politique qui s'intéresse à cela, Jean Bodin, quand il dit « il n'est de richesse que d'homme ». C'est ça la véritable richesse. Donc il faut entretenir cette richesse, il faut en tenir compte. Et à partir de cette époque, progressivement, effectivement, l'espérance de vie va commencer à augmenter, la mortalité infantile va commencer à diminuer. Donc c'était tout à fait juste de dire qu'il n'y avait pas de qu'on avait peu abordé les questions philosophiques, mais elles ont un rapport, à mon avis, très important avec les sujets qu'on a traités, même si ils sont présentés sous une forme plus technique.
Oui, je suis ça me paraît très juste. Est-ce que Pierre-Henri Gouillon voulait dire un mot?
Oui, ben juste reprendre quelques points. Moi, je voudrais dire effectivement que je trouve tout à fait étonnant de voir de notre société qui cherche par tous les moyens à augmenter la durée de vie des individus qui la composent, tout en se lamentant sur le fait qu'on ne sait plus du tout comment payer les retraites, qu'on ne sait plus comment combler le déficit de la sécurité sociale. Et donc, une espèce pour moi de schizophrénie entre le désir de voir les gens vivre plus vieux et le fait qu'on ne sait plus du tout quoi en faire une fois qu'ils sont là. Je pense qu'un jour ou l'autre, il faudrait que notre société ait une vraie réflexion sur ces questions et ne se contente pas de continuer à faire les choses parce qu'il est évident que c'est bien. Il est évident que c'est bien de vivre vieux, il est évident que c'est une victoire d'arriver à 100 ans. Moi, toutes ces évidences-là, j'aimerais qu'on les questionne.
Donc, vous proposez de créer un centre de formation à l'écourtement de la durée de la vie, par exemple?
Je demande, par exemple, qu'il y ait une taxe sur les non-fumeurs, parce qu'il y en a marre que les fumeurs soient obligés toute leur vie de cotiser pour payer la retraite des non-fumeurs, etc.
Jean-Louis Robin.
Oui. Je pense effectivement, alors qu'on a eu des désaccords évidents au cours de ce débat, je pense effectivement avec mon collègue qu'il y a urgence d'avoir un débat sur la quantité et la qualité de vie et sur ce qu'on veut faire. Parce que la mort des personnes de plus de 90 ans aujourd'hui, ce n'est pas des belles morts. Je veux dire, les seules belles morts qu'on connaisse, malheureusement, c'est des morts de jeunes. Et je suis de ce point de vue-là tout à fait d'accord avec Hervé Lebras. C'est-à-dire, lorsque la mort est due à un accident, c'est-à-dire que si un autobus passe sur vous, vous ne pouvez pas faire front, et donc la mort, quelque part, elle est légitime, ou lorsque vous mourrez effectivement d'une maladie mortelle. Le problème, c'est que, en général, les gens qui atteignent 90 ans ou plus, c'est des gens qui, justement, ont échappé aux maladies mortelles, aux maladies cardiovasculaires, aux cancers. Ils peuvent être porteurs d'un certain nombre de cancers, mais ce n'est pas ça qui va les tuer, parce qu'à ces âges-là, les cancers, finalement, se développent relativement lentement. Et donc, on a affaire à des gens qui ne sont pas porteurs de maladies mortelles. Et si on accorde suffisamment d'importance à leur qualité de vie, eh ben, on supprime pratiquement toutes les raisons de mourir. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de mourir parce qu'on a 90 ans et parce qu'il fait chaud dehors, ou parce qu'il fait froid dehors, ou parce qu'un virus de la grippe est d'entrée. Donc de toute façon, à partir du moment où on traite avec respect les personnes âgées, et de toute façon, toutes les personnes qui travaillent dans les maisons de retraite aujourd'hui cherchent à améliorer le niveau de l'activité, c'est-à-dire si on fournit des repas de meilleure qualité, si on fait attention à permettre aux personnes âgées de bénéficier, par exemple, de kinésithérapie, parce que si elles ont du mal à marcher, ben on les aide à marcher, on leur fait faire un petit peu de sport, on fait attention à ce que la clim soit bien réglée, etc. On supprime de fait quasiment toutes les raisons de mortalité chez des personnes qui sont fragiles, et donc effectivement un rien les tue, mais qui ne sont pas malades, qui ne sont pas porteurs d'une maladie mortelle. Et donc là, on est vraiment dans un dilemme. On est vraiment dans un dilemme parce qu'on ne peut pas maltraiter une personne âgée sous prétexte qu'elle est âgée et que si on la traite pas mal, elle va durer, durer, durer. Voilà.
Et c'est vrai que pour conclure, l'avenir est très difficile à prévoir. Et que quand on lit les études qui sont faites aujourd'hui sur les perspectives de nos sociétés, on est un peu effaré. Et on ne sait pas où on va. Ça, c'est un sentiment extrêmement fort. C'était l'une des raisons pour lesquelles nous avons réalisé ce dossier. Mais très, très, très égoïstement, je me félicite que la population des personnes âgées augmente, parce que je pense que c'est une population qui lit. Et donc, il peut lire Books. Merci.
C'est le mot de la... Tu sais comment il vote aussi.
C'est un autre sujet.
C'est un autre sujet. Merci à vous.